Seigneur, bénisse. Vous avez des salutations au nom de Jésus-Christ, la sœur Annie Tchala. Nous allons prier. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous te remercions ce soir pour l'occasion de cette réunion. Nous pouvons nous rassembler quelques-uns pour pouvoir écouter ta parole. Ou même la prêcher. Nous te demandons, selon ta promesse, de bien vouloir nous honorer de ta présence. C'est un grand honneur pour nous de t'avoir au milieu de nous. Et nous voulons que cela soit, nous puissions t'accueillir, ô Dieu, en étant correctement habillés, intérieurement, extérieurement. Que tu te plaises en notre présence, comme au commencement, tu te plaisais en présence d'Adam et Ève. Veuille nous pardonner nos péchés, car c'est le péché qui t'a séparé des hommes. Puisses-tu, toi qui as trouvé le moyen de les effacer, efface-les-nous, Seigneur. Et que tu trouves ta place dans cette fraîcheur du soir, au milieu de nous. Parle-nous et nous te remettrons ceux qui n'ont pas pu venir, qui sont ailleurs, soit ils travaillent, soit ils ont voyagé, soit quelque empêchement qu'il y a. Nous te demanderons d'être avec Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire ce soir dans Jean chapitre 2, Évangile de Saint Jean, chapitre 2. Versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pourrons-nous asseoir. Fabrice, il savait ce qui était dans l'homme. On peut raccourcir, même lui-même, mais il savait ce qui était dans l'homme. Ça veut dire que Dieu sait ce qu'il y a en vous. Dieu sait ce qu'il y a en moi. Il sait ce qu'il y a en nous tous, les bons et les méchants. Il sait. Ce qui signifie que si moi, puisqu'il dit ici... Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Ça veut dire que si moi, je fais témoignage de quelqu'un, je rends témoignage de quelqu'un, au sujet de quelqu'un, mon témoignage a de fortes chances, si pas quasi à l'assurance, d'être fausse. Ça va? Parce que moi, je vais vous donner un témoignage sur ce que je vois extérieurement. Dieu donne témoignage de ce qu'il voit intérieurement. Si nous devions rendre témoignage d'Ésaü et de Jacob, beaucoup diraient qu'Ésaü était certainement un meilleur enfant que Jacob. Mais Dieu a un autre témoignage. Ça va? Si je vous dis que frère François est bon, ouais, il est peut-être bon parce qu'il m'a donné 10 euros, parce qu'il m'a fait ceci, il m'a fait cela, mais Dieu n'a pas ce témoignage-là du frère François. Dieu a un autre témoignage. Ça va? S'il est rancunier, s'il est cruel, s'il est hypocrite, toutes ces choses, Dieu sait. Il sait ce qui est bon en moi, il sait ce qui est mauvais en moi. Il le sait. Quand il a rencontré Nathanaël la première fois, lorsqu'on regarde extérieurement, Nathanaël semble douter. Quelqu'un avec, donc, qui est douteux sur ce que lui dit Philippe. Donc, il n'était pas enclin à croire directement. Mais Jésus ne dit pas, tiens, voilà un incrédule ou bien quelqu'un difficile à croire. Dans Jean chapitre 1er, nous voyons, au verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oui, c'est sa disposition déjà. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans, donc, au-dedans de lui, n'est-ce pas? Dans lequel il n'y a point de fraude. C'est vrai que extérieurement, il était sous le figuier. Frère Abraham dit, il priait certainement sous le figuier, mais on pouvait voir en lui un homme pieux. Mais le Seigneur dit, c'est quelqu'un dans lequel il n'y a pas de fraude. Et Nathanaël dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Oui. Il savait. Dieu peut savoir qui a un cœur pur et qui ne l'a pas. Il y a une bénédiction pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu donne. Maintenant, vous pouvez toujours dire, « Mon cœur est pur. » Ça, c'est votre témoignage. C'est le témoignage de vous-même. Quand vous dites que mon cœur est pur, vous le dites peut-être parce que vous n'avez pas volé, vous n'avez pas commis adultère, vous n'avez pas fait ceci ou cela. Alors vous dites mon cœur est pur. Mais ça, ce ne sont pas les critères divins. Dieu a ses critères. Et Dieu réserve une bénédiction à ceux qui ont le cœur pur, n'est-ce pas ? Matthieu 5, 8, nous connaissons cela. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. C'est une bénédiction que de pouvoir le voir. Mais pour pouvoir le voir, il faut avoir le cœur pur. Et qui décide que le cœur est pur, c'est Dieu lui-même. Et ce cœur est pur, comment est-ce qu'il est pur ? Vous n'êtes pas né comme cela avec un cœur pur, parce que David dit ceci dans le psaume 51, et c'est valable pour tout le monde, pour tous les hommes, n'est-ce pas ? Psaume 51. dit verset 5, car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, c'est valable pour nous tous. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Au verset 12, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Dis amen à ça. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, avoir ce cœur pur, c'est Dieu qui l'a créé. Maintenant, le cœur, comme on dit, lorsque vous lisez dans la Bible, lorsqu'il est question du cœur, il ne s'agit pas nécessairement du cœur anatomique, hein, l'organe qui bat au-dedans de nous. Quand on vous dit telle histoire, c'est le cœur du problème, ça veut dire c'est vraiment l'intérieur du problème. Le cœur pur, c'est l'homme intérieur ou la femme intérieure, ce qui est en vous. Ça va? La personne qui réfléchit, la personne qui est en contact avec vos pensées, avec vos souvenirs, votre conscience. Donne-moi un cœur pur, crée en moi un cœur pur. Et Dieu dit, heureux sont ceux qui ont un cœur pur. Quand il rencontre la Samaritaine, quand Jésus-Christ rencontre la Samaritaine, il ne lui dit pas seulement une chose, une chose sur elle. Il pouvait en dire beaucoup plus. En ce qui nous concerne, parce qu'il nous connaît, en ce qui nous concerne, Dieu peut faire un tableau de ce que nous sommes. Vous connaissez l'histoire de Daniel Curie, on l'a souvent raconté. Daniel Curie, lui, il voyait en lui, selon son propre témoignage sur lui-même, il voyait en lui quelqu'un à qui les portes du ciel devaient être ouvertes, hein, ne fût-ce qu'à son apparition, dès son apparition. Mais on a commencé à lui énumérer ce qu'il était réellement, ce n'était pas une seule chose. C'était plein de choses. Alors que extérieurement, il pouvait paraître quelqu'un de très bien. Quelques questions. N'as-tu jamais menti dans ta vie? Silence. Et il se voit en train de mentir. N'as-tu jamais volé dans ta vie? Silence. Et il se voit en train de voler. As-tu jamais convoité? Et ainsi de suite. Vous savez, c'est comme on dit souvent, si ce qui se trouve là-dedans, Dieu montrait cela dans un écran, tout de suite, je crois que nous nous cacherions tous. Mais la Samaritaine, Dieu n'avait pas besoin de tout ressortir. Elle-même, elle a commencé à ressortir cela. Le Seigneur lui dit ceci, Jean 4. Bon, il pouvait lui dire beaucoup plus de choses s'il avait voulu. Mais la chose qu'il lui a dite était suffisante pour qu'elle puisse se voir dans quelle situation où elle était. Jean 4. Et la connaissant, sachant, connaissant l'intérieur de cette femme, il connaissait quel était le réel besoin de cette femme. Quand nous, extérieurement, nous la regardons aller vers le puits de Jacob, pour nous, elle avait besoin d'eau, elle avait besoin de l'eau du puits, elle avait soif ou que sais-je, elle avait quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, elle avait un besoin d'eau. Jean chapitre 4, verset 10, Jésus lui dit juste ceci. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », maintenant, si tu le connaissais, tu lui aurais demandé la chose dont tu as besoin. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ce dont tu as besoin, c'est de l'eau vive. Pour que tu ne sois plus dans l'état où tu es. Je ne sais pas dans quel état il était, mais moralement, ça n'allait peut-être pas. Beaucoup de soucis, certainement, pendant qu'elle puisait de l'eau. Beaucoup de questions dans sa tête. Peut-être qu'elle avait des idées sombres au moment où le Seigneur l'a rencontrée. Et le Seigneur lui dit, « Si tu savais qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », il t'aurait donné, donc tu aurais toi-même, toi tu serais venu à lui et tu lui aurais demandé, « Seigneur, donne-moi de l'eau vive. » Alors, la femme lui dit, « Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Cette eau vive. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est ton problème. Tu essayes telle solution, ça ne se résout pas. Tu cherches la paix, tu ne l'as pas. Tu cherches la tranquillité, tu ne l'as pas. Et tu crois que si tu bois de cette eau parce que Jacob en a bu autrefois, n'est-ce pas, tu seras bien. Eh bien non. Donc, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et ça travaille là-dedans. Et la femme dit, c'est de ça que j'ai besoin. Oui. Et Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, ok, maintenant, pour te donner ça, y a, pour que tu puisses recevoir cette eau vive, il faut que tu sois dans une certaine condition. La condition dans laquelle tu te trouves, tu ne peux pas recevoir cette eau-là. L'eau vive est un type du Saint-Esprit. On va le voir. La femme lui dit donc, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus lui dit, « Ok, je suis prêt à te donner, mais dans l'état où tu es, hein, tu ne peux pas avoir de cette eau. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, « Je n'ai point de mari. » Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites, vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, la conversation va continuer. Du coup, l'eau qu'elle est allée puiser, elle n'en avait plus besoin. Ce qui fait son besoin en eau était ainsi satisfait. La femme, du coup, au verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche, elle laisse la cruche, elle n'en a plus besoin. Ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, ce sont des gens qu'elle n'osait pas côtoyer, parce que personne ne voulait s'approcher d'elle en plein jour, n'est-ce pas? S'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Et pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Et ben, ça va continuer, mais nous voyons au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça va? Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Ils savaient qu'elle avait soif du Saint-Esprit. Toute personne qui a ce besoin d'adorer le Dieu créateur, le Dieu véritable, sa soif n'est pas seulement de chanter des cantiques. Sa soif n'est pas seulement d'aller à l'assemblée. L'assemblée peut ne pas assouvir votre soif. Chanter des cantiques peut ne pas satisfaire votre soif. Mais si cela se passe en esprit, cette eau vive, je vous ai dit, le Saint-Esprit représente, l'eau vive représente le Saint-Esprit. Jean chapitre 7, n'est-ce pas? Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, pas de l'eau stagnante. Amen. D'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous savez, quand on vient et que l'on songe et que l'on pense aux ailes du début, quand on a cru, sous l'action du Saint-Esprit, nous en parlons souvent comme avec beaucoup de nostalgie, comme si actuellement le même Saint-Esprit qui nous réjouissait en ce temps-là, lorsque nous avions cru, comme si le même Saint-Esprit n'agissait plus aujourd'hui de la même manière. C'est devenu monotone. C'est devenu monotone parce que vous continuez à utiliser l'onction d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Cette onction-là, bon, pour vous, elle a stagné en fait. Mais non, le Saint-Esprit, c'est un esprit vivant. Le Saint-Esprit est vivant, il vous parle, il peut vous rappeler les choses d'hier. Mais ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il le fera encore demain. Si, lorsque vous avez cru, dans votre zèle du début, vous priez sous l'onction du Saint-Esprit, des prières qui vous transportaient, où vous receviez même des flots d'onction sur vous, eh bien, ce n'est pas fini. Ce qui s'est passé, vous avez continué sur ce que vous aviez reçu au début. Vous aviez manifesté un certain zèle. Vous croyez que le zèle que vous manifestiez hier, ce zèle-là est encore agissant aujourd'hui. Non, il faut le zèle d'aujourd'hui. Pas se dire toujours à... Autrefois, quand j'étais zélé, je ne ratais pas les réunions. Oui, mais que ce zèle-là continue. Ce zèle-là ne doit pas s'arrêter. Vous n'êtes pas lassé de Dieu. Hein? Au début, quand les pentecôtistes se sont levés, il y a eu ces parler en langue, il y a eu ces prophéties, il y a eu ces choses. Ils se sont arrêtés là, se contentant des prophéties et de parler en langue. Non, il y a plus que cela. Alors, elle ne savait pas, cette femme, cette Samaritaine, elle ne savait pas qu'elle était en présence de celui qui donnait l'eau vive, celui qui donne le Saint-Esprit. Jean-Baptiste nous dit que c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Jean-Baptiste dit, dans Marc, chapitre 1er, verset 6. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Ça va? Et le Saint-Esprit, il vous aide. Romains 8. Le Saint-Esprit est celui qui vous a aidé dans vos jours de conversion, quand vous vous êtes converti, dans vos jours de quand vous étiez repenti, vous avez entendu la parole, vous avez cru. Le Saint-Esprit répandu, vous aviez cru sous une certaine onction, et le Saint-Esprit vous aidait dans vos prières. Ça explique combien vos prières, n'est-ce pas, étaient si belles, si bonnes, je ne sais pas, et que Dieu exauçait. Pourquoi Dieu exauçait ces prières-là? Parce que l'Esprit demandait des choses convenables. Ce qui convient de demander. Au fur et à mesure qu'on avance, Satan nous remet toujours sur le chemin les choses du monde devant nous, pour nous détourner du chemin, afin que nous puissions ainsi nous détourner de là où nous allons, pour que nous puissions commencer à chercher les choses du monde. On se retrouve alors que lorsqu'on a cru qu'on soit pauvre ou que l'on soit riche, on se fichait de notre condition. Mais à un moment donné, cela devient presque une priorité, tout en étant chrétien. Cela devient une priorité. On commence à courir, on brosse les rassemblements. Là où le Saint-Esprit parle, on les brosse. Pourquoi? Parce qu'on court après un certain boulot, on court après l'argent, on court après certains biens qui satisfont les gens du monde, mais qui ne vous servent pas à grand-chose. Ça va? Vous savez qu'au moment où vous avez cru, la télévision ne valait pas grand-chose. Beaucoup de gens, lors de leur foi du début, ils ont pris leur télé, ils l'ont jetée carrément dehors. Et puis, finalement, ils ont constaté que la télé, frère François en a une, frère Jocelyn en a une, hein, la, la, La sœur Josette en a une, et ainsi de suite. Ben, pourquoi pas moi? Alors finalement, il va maintenant recommander, il va rechercher une télévision. C'est pas mauvais. Je ne dis pas que c'est interdit. Mais le prophète de cet âge a appelé cela en faire vision. Oui. Ben, ça devient quand même quelque chose d'indispensable. Alors évidemment, on met ça sur le dos des enfants. Non, les enfants ont besoin. Il faut que j'achète une télévision pour les enfants. C'est bien, c'est pour les enfants. Mais que cela soit, es-tu sûr que c'est vraiment pour les enfants? Si la télé ne te servira pas à toi, maintenant, si elle te sert pour autre chose, c'est très bien. Aujourd'hui, ce n'est plus... Mon frère me dit, la télévision est sortie des salles de cinéma, elle est maintenant dans les maisons. Aujourd'hui, non seulement elle est dans les maisons, elle est dans les mains. Elle est dans les mains des gens. Ça, vous devez le... Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, mais quand vous êtes à 4 ou à 5 dans une même maison, il peut arriver que vous soyez tous dans la même pièce. La télé est allumée. De toute façon, personne ne s'occupe de la télé. Chacun a son téléphone en main. Oui? Il a son téléphone en main, les gens sont distraits, vous mangez avec votre téléphone en main, vous dormez avec votre téléphone, vous vous réveillez avec votre téléphone. La première chose que vous faisiez au début, quand vous vous leviez, c'était de vous mettre à genoux. Aujourd'hui, la première chose que vous faites, si vous n'avez pas reçu de message, vous regardez s'il n'y a pas de message. Alors, avant de prier, évidemment, surtout ne le faites pas avant. Ne commencez pas par prier avant, ça ne marchera pas. Parce que quand vous verrez qu'il y a un message qui est arrivé de je ne sais qui, vous n'allez pas bien prier tant que vous n'avez pas lu. Lisez le message. Si vous voulez bien prier, lisez votre message. Il ne fallait pas regarder. Dès le moment où vous avez regardé, ben, lisez. Et le téléphone portable, au départ, c'était un téléphone. De quoi communiquer. Aujourd'hui, c'est plus qu'un téléphone. C'est même un terrain de jeu. Vous parlez à quelqu'un, vous voyez, la personne est absorbée dans son écran. Il est en train de jouer à un jeu qui va recommencer 10 fois, 20 fois, 30 fois. Or, la Bible vous dit ceci. Psaume chapitre 1er. Verset premier, heureux l'homme, heureux en anglais, hein, c'est béni. Donc, c'est une bénédiction, c'est une béatitude. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ben, je n'écoute pas les méchants, c'est bien. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, je ne le fais pas, c'est bien. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, c'est bien. Mais... toujours l'homme, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Votre téléphone vous a volé votre temps de méditation. Que ça soit la nuit, quand vous souffrez d'insomnie, autrefois avec votre zèle du début, quand vous souffriez d'insomnie, vous vous adressiez à Dieu, pendant la nuit. Maintenant, quand vous vous levez la nuit, on vous montre des jeux. Vous faites un... Il y a des jeux, il y a une multitude de jeux. Je vois même comment les gens s'apprennent. Ah tiens, tu joues à quoi ? Je joue à ce jeu. Tiens, explique-moi. Et finalement, on vous explique le jeu et ça devient votre occupation. La personne est silencieuse là où elle est assise. Au moment, il y a quelque temps, c'était une personne méditative qui méditait. Aujourd'hui, c'est une personne joueuse. Elle ne fait rien de mal en apparence. Mais elle se prive de bénédiction. Et ces jeux-là sont faits de... Satan est tellement malin. Ces jeux-là, ils sont évalués. Il y a des points. Alors, vous essayerez toujours de battre les records. Moi, j'ai déjà assisté. Je vois quelqu'un qui était silencieux pendant des heures. Je regarde, et puis il bat son record, et puis je l'entends dire « Yes !» Et vous croyez qu'il va arrêter ? Eh ben non, il recommence maintenant, il veut battre ce record. Et le temps passe, et il est l'heure de dormir. La prière, autrefois, elle pouvait être kilométrique. Aujourd'hui, elle est... Maintenant, je ne dis pas que les meilleures prières sont les prières kilométriques. Non. Les meilleures prières sont celles qui sont conduites par le Saint-Esprit. On revient dans Romains chapitre 8. Ouais. Le Saint-Esprit que Jésus donne, il nous sert à beaucoup. Non, ne jetez pas vos téléphones par la fenêtre. Ça peut être un bon outil, mais Satan l'utilise à merveille pour vous éloigner de Dieu. Même il y a des choses que nous redirons, en tout cas, certainement dimanche, parce que j'ai eu une longue conversation avec quelqu'un, avec une sœur, Dieu la bénisse, en bas derrière. Vous savez, il y a des choses, on le répétera dimanche. Parce que je dois mettre en garde tout le monde. Faites attention aux réseaux sociaux. Je vous le dis souvent. Faites attention aux réseaux sociaux. On parle de témoignages. On vous apporte un témoignage d'un certain frère ou d'une certaine sœur qui est mort ou qui est ressuscité ou je ne sais pas, ou même il y a une certaine prophétesse. Là, j'ai vu ça quand j'ai vu ça hier aujourd'hui. Hein, une femme qui est morte il y a 25 ans à peu près, qui était aveugle, une certaine prophétesse, je ne sais plus comment on l'appelait encore, prophétesse des Indes ou quelque chose comme ça. Elle aurait prophétisé sur le 11 septembre 2001, elle aurait prophétisé même sur Poutine ou des choses pareilles. Mais pourquoi mettez-vous de l'importance à ce qu'elle prophétise pendant que la Bible a prophétisé ça ? Et puisque la Bible l'a prophétisé, le Saint-Esprit va vous le révéler. C'est à cela qu'il sert le Saint-Esprit. À vous révéler la parole. Ah, résurrection, il y a eu une résurrection dans tel pays. Et le frère ou la sœur a fait un séjour en enfer et il vient raconter ce qui s'est passé en enfer. C'est rare de voir quelqu'un qui vient avec, dans les réseaux sociaux, avec un témoignage qu'il a été au paradis. C'est souvent en enfer qu'ils vont pour venir vous dire qu'il y a ceci. D'accord, c'est bien de donner ce témoignage, mais dites-moi un peu. Dans Luc chapitre 16, Jésus en parle, non? Du riche qui meurt et du pauvre qui meurt. Jésus en parle. Ça ne suffit pas. Dites Amen. Si vous voulez méditer ce que dit la parole, le Saint-Esprit vous conduit. Alors, et une chose, une question m'est venue tout à l'heure, avant qu'on lise Romains 8. Lazare, il est mort pendant 4 jours. Lazare est mort. OK ? Lazare est mort. Quand Lazare est ressuscité, montrez-moi où Lazare raconte ce qu'il a vu. Il ne raconte pas. Ce qui est écrit ici, c'est suffisant pour le salut. Ne cherchez pas autre chose. C'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre du péché. Si telle chose est mauvaise, c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre que c'est mauvais. Pas les réseaux sociaux. Romains chapitre 8. Je dis d'abord verset 14. Jésus savait ce qui était dans l'homme. Hein? L'esprit sait ce qui est en vous. Les réseaux sociaux ne le savent pas. Jésus connaît vos besoins. L'esprit connaît vos besoins. Verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même, pas autre chose, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes héritiers. Vous avez hérité de quoi? Comment pouvez-vous savoir quel est votre héritage? Si ce n'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait très bien ce qui est à vous, ce qui vous revient. Au verset 26, il nous est dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède, que l'Esprit intercède. » En faveur de ça. Ouais, c'est selon Dieu qu'il intercède. Alors, aujourd'hui, quand là où vous êtes, c'est l'Esprit sait ce dont vous avez besoin. Votre temps de méditation, vous le perdez en lisant des témoignages qui ne sont pas nécessairement bibliques. Ouais. C'est qui manipule? C'est qui contrôle? C'est le mot que je cherchais. C'est qui contrôle les réseaux sociaux? Dites-moi un peu. C'est Dieu ou c'est Satan? Et vous croyez vraiment que si c'est Satan qui contrôle ça, vous croyez vraiment que Satan va vous donner des témoignages qui vont vous affermir? C'est que vous ne le connaissez pas. Vous Vous avez votre, prenez votre Bible, méditez la parole. Méditez-la. Ils ont Moïse et les prophètes, n'est-ce pas, qui les écoutent. Donc, Jésus est le donateur, le donneur de, du Saint-Esprit. Dieu lui-même, Jéhovah, le grand Jéhovah, nous dit qu'il est lui-même une source d'eau vive. Jérémie 2. C'est ce que Frère Branham disait autrefois. Il disait, les gens préfèrent rester, regarder, nous aimons Suzy, plutôt que d'aller à l'Assemblée. Nous aimons Suzy, ça peut être un sketch ou une série moralisatrice, hein, qui vous montre la bonne morale, où celui-là est peut-être un homme bon selon nous, un homme mauvais selon nous, peut-être, mais ce qui est bon, c'est dans la Bible. Pas nous aimons Suzy. Jérémie 2, verset 12. Soyez cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Seigneur? Eh bien, ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Pourquoi? Pour se creuser des citernes. Pourquoi? Pour visionner leur smartphone. Pour visionner leur télévision. Pour... Donc, ils m'ont oublié. Ils ont oublié la Bible. Ils m'ont mis dans un coin de la maison. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu est source d'eau vive. Et l'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit connaît vos besoins. Quand vous venez au rassemblement ici, si vous êtes vraiment dans l'Esprit, le Saint-Esprit vous dira vos besoins. Non seulement vous dira, mais il satisfera vos besoins. Mais beaucoup n'y croient plus beaucoup à cela. Que le Saint-Esprit satisfera mes besoins. À venir au culte, ça devient comme une obligation. Ce n'est pas une... David, lui, on ne l'obligeait pas. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. David dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est ce que David dit. Il dit, c'est là que l'Éternel bénit. Et répand la vie en abondance. Jésus savait ce qui était dans l'homme. Il connaissait les pensées des scribes. Marc chapitre 2. Il savait. Verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Il t'amène à ça. Au-dedans d'eux, leur dit, Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique? Tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Il connaissait les pensées de Simon le pharisien. Luc chapitre 7. Un pharisien, verset 36, pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit, n'est-ce pas, à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville et ensuite qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait de qui ?» Il dit en lui-même, n'est-ce pas ? En lui-même. « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche ? Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Il savait. Il connaît vos pensées. Il connaît mes pensées. Et n'oublions pas, Matthieu 15, 19 nous dit, les mauvaises pensées viennent du cœur, viennent de l'intérieur. C'est de là que ça vient. Il connaît mon cœur, il connaît votre cœur. Il sait si votre cœur, il sait si mon cœur, je ne sais pas si l'expression n'existe pas, mais vous comprendrez ce que je veux dire, il sait si mon cœur est baptisable du Saint-Esprit ou pas. S'il est apte à recevoir le Saint-Esprit. Pour qu'il soit apte à recevoir le Saint-Esprit, il faut que ma repentance soit bonne. Qui ça ? Jean-Baptiste dit, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et celui qui vient après moi, ça se suit, hein, quand il dit ça. Ou ça se suit. Il y en a un qui est devant l'autre, mais ça, vous pouvez vérifier, ça se suit. Et donc, vous produisez des fruits dignes de repentance, celui qui vient après lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et Jésus, quand il le donne à quelqu'un, il ne se trompe jamais. Il ne peut pas se tromper parce qu'il connaît mon intérieur. Il sait ce qui se passe en moi. Il sait que oui, maintenant, je peux le lui donner. Et c'est valable pour vous et c'est valable pour moi. Et vous ne savez pas quelle joie vous avez lorsque le Saint-Esprit vous conduit. Cette joie-là que David chante, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Nous ne la connaissons pas, cette joie. Parfois, nous le chantons quand l'Esprit de Dieu habite en nous. Hein, oui, nous le chantons. Mais est-ce que c'est réel? Pour certains, je ne dis pas tout le monde, il y en a lorsqu'ils le chantent, ils ressentent réellement cette joie, cette paix que le Saint-Esprit donne. C'est le fruit de l'Esprit. Quand il le donne, donc, il ne se trompe jamais de personne. Il sait à qui le donner. Et il était prêt à donner de cette eau vive à la Samaritaine. Il dit, si tu connaissais qui est celui à qui, tu aurais demandé et il t'en aurait donné. C'est valable pour vous et pour moi. Si on le connaissait, il est prêt à nous le donner. Nous lui demanderions et il serait prêt à nous le donner. Il connaît notre intérieur. De nous tous. Il ne suffit pas de dire je crois, c'est ce qui s'est passé dans Jean 2. Beaucoup ont cru à cause des miracles, comme beaucoup ont cru au message à cause des miracles qui se sont produits pendant que ce message était donné, était apporté. Beaucoup ont cru, mais le frère m'a envoyé une vidéo d'un Non, c'est pas le frère, c'est quelqu'un d'autre. Je ne connais pas la personne. C'est un numéro sans nom qui m'a envoyé une vidéo où, depuis 1965, il y a un avion qui attend la résurrection du frère Branham. Oui. Donc, ils attendent, puisque il est mort sans accomplir certaines promesses qu'il avait faites, disant qu'il prêcherait sous la tente. Donc, ils attendent que l'avion le prenne pour qu'il y ait cette fameuse réunion sous la tente. Oui. Ce sont des gens qui ont cru, mais la Bible nous dit que dans Jean chapitre 2, ce qu'on a lu, Jésus ne se fiait pas à eux. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui était au-dedans d'eux. Prions le Seigneur. Prions. Père céleste, tu me connais. Depuis le début, tu connais même le nombre de pas que j'accomplirai tout au long de mon existence. Tu sais où j'en suis. Tu sais où en est mon frère, tu sais où en est ma sœur. Et tu es prêt à nous donner ces bonnes choses que tu as préparées d'avance pour ceux qui t'aiment. Tu sais qui t'aime et qui ne t'aime pas. Avec toi, il est impossible de tricher. Aussi, nous ne voulons pas marcher avec hypocrisie. Nous voulons marcher avec nos cœurs entièrement voué à toi. C'est vrai, nous le confessons. Satan a mis entre nos mains des choses qui retiennent notre attention, qui retiennent notre concentration, qui retiennent notre temps, qui nous empêchent de recevoir des bénédictions que tu as promises, des bénédictions réelles. En nous apportant des témoignages qui ne nous amènent nulle part, si c'était des choses nécessaires à notre salut, tu aurais écrit toutes ces choses dans la Bible. Mais toi, tu sais ce qui est nécessaire à notre salut. Et nous voulons être instruits par toi sur ces choses. Que nous puissions en bénéficier, marcher d'une manière qui te soit agréable. Sois béni, Seigneur, parce que nous te donnions toujours cette première place. Ça n'a pas été le cas dans ma vie. Ce n'est peut-être pas le cas dans certains de mes bien-aimés ici. Puisses-tu nous aider à ce que nous te mettions chaque fois en premier lieu. Et nous te demandons pardon pour l'hypocrisie que nous avons affichée. Je te demande pardon pour l'hypocrisie que j'ai affichée. Oh Dieu, en prenant d'autres choses, les mettant avant toi, que tu es la prééminence, Seigneur. Pardonne-moi. Redonne-moi le zèle du début. Redonne-le à mon frère. Redonne-le à ma sœur. Redonne-nous ces jours heureux quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur, ainsi que nous le chantons. Nous en remettons à toi et te remettons les réunions à venir. Que tu bénisses tes enfants. Les nourrices et ceux qui ne sauront pas venir pour quelque raison, que tu les accompagnes là où ils sont, que tu sois avec eux, qu'ils puissent aussi jouir de ta présence. nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez aussi les salutations du frère Constantin. Il voyage pour 2 semaines et demie en Angleterre. Il a demandé qu'on prie pour lui, priez pour lui. Nous le referons encore dimanche. Que Dieu vous bénisse.